Bonjour à chacun. Une semaine environ s'est passée depuis la révélation extraordinaire de la transfiguration. Et maintenant, Jésus et ses disciples sont à Jérusalem. Et nous les retrouvons ce matin dans la chambre haute, où ils s'apprêtent à partager le repas pascal. Un repas d'adieu, le dernier repas avant que Jésus n'entre dans sa passion, qui commencera quelques heures plus tard dans le jardin de Gethsémané. Le texte que nous allons considérer ce matin parle de ce dernier repas, et en particulier de l'acte surprenant que Jésus va y accomplir. Non seulement ce que Jésus va y accomplir, mais puisque nous sommes dans cette nouvelle série sur l'apôtre Pierre, aussi ce que Pierre va dire en réaction à cela. Vous l'avez compris sans doute, nous allons parler ce matin du lavage des pieds des disciples par Jésus lors de ce repas d'adieu. Et je vous invite à lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Je lis les versets 1 à 11. Jean 13, versets 1 à 11. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant. Tu le sauras après. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur, or vous êtes purs, mais non pas tous. » En effet, il savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Avant de parler du lavage des pieds, j'aimerais commencer par souligner quatre affirmations qui sont faites dans les premiers versets de notre texte. Et la première affirmation concerne le fait que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Cette affirmation nous rappelle et nous aide à comprendre que Jésus avait une pleine conscience de sa mission. C'est pour cette heure qu'il est venu. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'il a dit quelques jours plus tôt. Le texte est affiché dans Jean au chapitre 12, verset 27. « Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?» Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Et cette heure en question, l'heure pour laquelle Jésus a quitté son Père, l'heure pour laquelle il a quitté la gloire, est maintenant là. À bien des reprises, Jésus avait dit à ses disciples que l'heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, cette heure est arrivée. Verset 1, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue. Cette heure, c'est dans un premier temps celle du don de sa vie, celle de sa mort. Et puis ce sera ensuite celle de sa victoire sur la mort par sa résurrection, celle de passer de ce monde au Père, celle de retrouver la gloire. Mais avant tout cela, ce sera l'heure de la souffrance, l'heure de l'agonie, l'heure de la tentation de tout arrêter là, de ne pas aller jusqu'au bout, de renoncer à la croix, de ne pas boire la coupe, de renoncer à cette heure. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Et cette affirmation souligne avec force que la croix n'est pas un accident de parcours. Jésus ne s'est pas fait avoir par les chefs religieux de l'époque. Jésus savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il était venu, pourquoi il s'est fait homme. Il savait vers quoi il cheminait. Personne ne lui a ôté la vie. C'est lui qui l'a donné en sacrifice pour le salut de quiconque. La deuxième affirmation de notre texte concerne le fait que Jésus aima les siens jusqu'au bout. Verset 1, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'expression « jusqu'au bout » qui est utilisée ici signifie littéralement jusqu'à la fin, ou on peut aussi traduire jusqu'à l'extrême, jusqu'au maximum. Mais pourquoi dire ici que Jésus aima ses disciples jusqu'à la fin, ou jusqu'à l'extrême, ou jusqu'au maximum, alors qu'il n'est que question de lavage de pieds? N'est-ce pas à la croix que Jésus a fait cela? C'est effectivement à la croix que Jésus a pleinement manifesté son amour. D'une certaine manière, la croix, c'est l'apogée, le summum de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Un amour jusqu'à la fin, jusqu'au don de sa vie. Un amour jusqu'à l'abaissement total et volontaire de Dieu qui s'est fait homme, du Créateur méprisé et injustement jugé par ses créatures, du Fils de Dieu mis à mort par celles et ceux qu'il est venu sauver. Un abaissement symbolisé, représenté par le lavage des pieds de ses disciples. Lavage lui-même symbolique de la purification des péchés que Jésus offre par l'œuvre de la croix, de telle manière qu'il est juste de dire ici que Jésus les aima jusqu'au bout. La troisième affirmation de notre texte concerne le fait que le diable avait déjà mis au cœur de Judas de livrer Jésus. Verset 2, pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer Jésus, etc. Jean précise ce détail dès le début de ce chapitre, sans doute pour accentuer l'amour de Jésus. Un amour même pour Judas, qui va le livrer. Jésus savait ce que Judas allait faire, et il va néanmoins lui laver aussi les pieds. Concernant la trahison de Judas, plusieurs explications ont été avancées. Pour certains, ce serait la cupidité qui en serait la cause. Pour d'autres, la jalousie envers les autres disciples. Pour d'autres encore, la déception, parce que Jésus n'est pas le Messie politique qu'il attendait. Jean se contente ici de mettre l'accent sur l'action du diable, sur l'œuvre qu'il a faite dans le cœur de Judas, qui lui a à l'évidence ouvert le cœur. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer. La quatrième affirmation de notre texte concerne le fait que Jésus savait que le Père a tout remis entre ses mains. C'est le verset 3. Il a tout remis entre ses mains signifie premièrement la pleine confiance du Père dans le Fils. Le Père a confié l'œuvre du salut au Fils. Elle est dans ses mains. Il lui appartient d'aller jusqu'au bout. Si le Fils échoue, c'est l'échec de l'œuvre du salut planifiée par le Père. L'enjeu est immense. Mais le Père a une pleine confiance dans le Fils. Il a tout remis entre ses mains. Et Jésus est conscient de cela. Il le sait, il sait qu'il est sorti de Dieu, dit le texte. Il sait qu'il retourne vers Dieu. Il est conscient de sa divinité. Et c'est dans cette conscience-là qu'il va s'abaisser en lavant les pieds des disciples et en les aimant jusqu'à la fin. Jésus est un homme libre. Il sait qui il est. Il sait pourquoi il est là. Il sait vers quoi il avance. Il sait que le Père a tout remis entre ses mains. Et nous arrivons maintenant au lavage des pieds, c'est notre troisième point. Pendant le repas, donc, Jésus se lève. Il pose son vêtement, c'est-à-dire le vêtement de dessus, le manteau qui l'aurait gêné pour faire ce qu'il va faire. Et il ne garde que la tunique, le costume des esclaves. Il attache un linge à sa taille, comme un tablier. Il verse de l'eau dans une cuvette et il se met à laver les pieds de ses disciples. Pourquoi le fait-il à ce moment-là et pas au début du repas, par exemple, comme c'était la coutume? Notons d'ailleurs qu'aucun des disciples ne l'a fait. Jésus le fait peut-être à ce moment-là à cause de la discussion qui a eu lieu entre les disciples pendant le repas et que Luc nous rapporte dans son évangile. Une discussion, ce n'est pas la première fois, pour savoir qui est le plus grand parmi les disciples. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Il leur dit, les rois des nations les dominent en seigneurs, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Les disciples ne sont que des serviteurs du Seigneur, mais ils veulent être grands, ils veulent être servis. Jésus, qui est le maître, va s'abaisser pour les servir, Pour leur donner un exemple, verset 27, il est au milieu d'eux comme celui qui sert. Il était d'usage à cette époque chez les Juifs et chez les Orientaux en général, parce qu'ils se chaussaient de sandales qui laissaient les pieds nus, de fréquemment se laver les pieds, surtout avant les repas, repas que l'on prenait couché sur le côté, la tête vers la nourriture qui se trouvait au centre. Habituellement, l'hospitalité voulait qu'on offre de l'eau à ses invités à leur arrivée pour qu'ils se lavent eux-mêmes les pieds. Notons que le lavage des pieds incombait aux serviteurs quand il y en avait. Laver les pieds de quelqu'un était considéré comme une tâche humiliante qu'on n'avait même pas le droit d'imposer à un esclave juif. Jésus se met donc à laver les pieds de ses disciples. Il prend clairement la place du serviteur. Il s'abaisse, il s'humilie. Et il est facile d'imaginer la consternation sur le visage des disciples. Un maître qui lave les pieds de ses disciples, c'est du jamais vu. C'est impensable, c'est inacceptable, c'est à l'encontre de toutes les règles de la bienséance et du savoir-vivre. Et très certainement que les disciples sont comme sidérés par ce que Jésus est en train de faire. Ils sont aussi certainement gênés, mais ils se laissent faire. Le texte laisse entendre que personne ne dit rien. Personne ne dit rien jusqu'à ce que Jésus arrive ou jusqu'à ce que le tour de Pierre arrive. Lui, Pierre, il est clairement déterminé à ne pas se laisser faire. J'allais dire qu'il a une réputation à tenir, en tout cas fidèle à sa réputation. Pierre réagit. Il parle spontanément, sincèrement, pour interpeller Jésus. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» On entend de l'indignation dans le propos de Pierre. Pierre proteste aussi énergiquement qu'il le peut. Il est catégorique, il n'est pas question que le maître lui lave les pieds. C'est tout simplement inenvisageable pour Pierre. C'est impensable, c'est inimaginable pour lui. C'est le Pierre entier, impulsif, sincère, qu'on connaît, qui parle. C'est aussi le Pierre qui aime profondément le Seigneur et qui ne peut pas accepter ce renversement des rôles qu'il trouve complètement choquant. Peut-être y avait-il aussi un sentiment de honte, la honte de ne l'avoir pas fait, la honte que ce soit le maître qui le fasse. La honte, car cette action de Jésus résonne peut-être pour lui comme une réprimande. Et Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Que dit Jésus à Pierre? Il commence par lui dire au verset 7 que Pierre comprendra plus tard, après, qu'il le saura après ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que Jésus entend par ce « après » Est-ce après sa mort et sa résurrection? Est-ce après son reniement et son rétablissement? Est-ce après les explications qu'il va donner à partir du verset 10? Si toutes les compréhensions sont possibles, une chose semble sûre. « Tu le sauras après » signifie que ce que Jésus est en train de faire, là, c'est beaucoup plus qu'une simple leçon d'humilité. C'est beaucoup plus qu'une simple leçon de savoir-vivre. Si Pierre ne voit que l'acte d'abaissement fait d'habitude par un serviteur et non un maître, Jésus, lui, voit beaucoup plus loin. Ce qu'il veut enseigner à ses disciples va bien au-delà de l'exemple qu'il leur donne néanmoins. Mais Pierre ne le comprend pas. Et il persiste et signe au verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds, dit-il. » Pour Pierre, quelle que soit l'explication, elle ne sera jamais suffisante pour lui faire accepter un tel non-sens à ses yeux. Au refus catégorique de Pierre, Jésus va répondre tout aussi catégoriquement au verset 8. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, dit-il. Nous avons ici une vérité permanente et tellement importante. Pour avoir une part avec Jésus, il faut se laisser purifier par lui. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de purification des péchés en dehors de lui. Si je ne te lave pas, dit Jésus, tu n'as pas de part avec moi. La communion avec Jésus qui passe par la purification des péchés est la part, on pourrait aussi dire l'héritage du croyant, du disciple de Jésus, et il va falloir que Pierre comprenne cela. Il faudra aussi qu'il comprenne que ce que Jésus est en train de faire est une sorte de parabole en acte de la purification des péchés qui va découler de son abaissement, de sa mort à la croix. La réponse spontanée de Pierre à cette dernière affirmation de Jésus montre peut-être qu'il est loin d'avoir compris. Montre peut-être qu'une fois encore, il a parlé sans réfléchir. Verset 9, « Alors, Seigneur, dit Pierre, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » En fait, on peut comprendre ici de deux manières. Soit ces paroles de Pierre traduisent qu'il n'a rien compris, soit elles traduisent qu'il a bien compris qu'avoir une part avec Jésus passe par la purification et qu'il faut donc être entièrement pur, d'où l'allusion aux mains et à la tête en plus des pieds. Mais quelle que soit la bonne compréhension, je pense que les paroles de Pierre traduisent premièrement son grand amour pour Jésus. Sa réponse montre que ce qui lui importe avant tout, c'est de rester attaché au Seigneur. C'est de rester dans la communion du Seigneur. C'est d'avoir une part avec Jésus. Mais cette part ne dépend pas du lavage des pieds, ni même des mains ou de la tête. Vous avez noté que Jésus dit précisément, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Il ne dit pas « Si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi, mais si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Où Jésus veut-il en venir? C'est le verset 10 qui nous donne la réponse. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or, vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Que dit Jésus ici? Que faut-il comprendre? Que veut-il faire comprendre à Pierre? Ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre et aux autres disciples, c'est la distinction importante entre la purification initiale des péchés lors de la conversion ou de la nouvelle naissance, et la purification qui doit se faire au fur et à mesure de la marche avec le Seigneur. Pour utiliser un jargon technique, théologique, on peut dire que c'est la distinction entre la sanctification dite de principe, celle qui a lieu à la conversion, et la sanctification qui doit avoir lieu tout au long, dite progressive, que nous devons rechercher jour après jour. Dès l'instant où nous acceptons la grâce de Dieu, la Bible nous dit que nous appartenons à Dieu. Et une autre manière de le dire, c'est de dire que nous sommes saints. Nous sommes mis à part pour Dieu. C'est le sens premier de ce que la sainteté veut dire ici. Nous sommes mis à part pour Dieu, nous appartenons à Dieu. Et ainsi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Vous avez été sanctifiés ». Vous avez été sanctifiés. Et vous savez que les lettres qu'il écrit, il les adresse aux saints de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe, etc. Et cet aspect de la sanctification, c'est donc ce que nous appelons la sanctification de principe. C'est quelque chose de ponctuel, de définitif, qui s'est passé au moment de la conversion, quand je mets ma foi en Jésus. Je deviens saint, je suis mis à part pour le Seigneur. Et dans ce sens-là, les disciples sont déjà saints. Ils sont entièrement purs, dit Jésus ici. Ils ont déjà mis leur confiance en Jésus pour leur salut, même s'ils n'ont pas encore tout compris, même si la croix est encore à venir. Mais ils sont déjà entièrement purs, mais pas tous, dit Jésus, parce que Judas est encore parmi eux. Ils sont entièrement purs, mais il reste beaucoup à faire. Si l'Écriture dit que nous sommes sanctifiés dès la nouvelle naissance, elle dit aussi que nous sommes appelés à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est Hébreux 12, verset 14, ou encore à devenir saint dans toute notre conduite, 1 Pierre 1, verset 15, ou à être toujours davantage sanctifié, Apocalypse 22, 11. Cette recherche de la sanctification, c'est la sanctification qu'on appelle progressive, qui correspond finalement à la lutte contre le péché dans notre vie, qui correspond en parallèle à la formation de Christ en nous. En résumé, et c'est ce qui complique un peu la compréhension des choses, le mot sanctification est utilisé pour décrire deux choses différentes, deux réalités bien différentes, une première réalité ponctuelle et définitive à la conversion, et une réalité récurrente qui doit être récurrente tout au long de la marche chrétienne. Très bien, me direz-vous, mais quel est le lien avec le lavage des pieds? Pour reprendre l'expression de Jésus, si je me suis baigné, au verset 10, c'est-à-dire, si je suis au bénéfice de cette purification initiale que Jésus offre à la conversion quand quelqu'un met sa foi en lui pour le salut et pour le pardon de ses péchés. Paul a une expression pour parler de cela, il dit dans Tite, le lavage de la régénération. Si je me suis baigné, donc, je n'ai plus que besoin de me laver les pieds. C'est-à-dire que je n'ai plus que besoin de confesser régulièrement mes péchés. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Tout comme les disciples, tout comme les pieds des disciples dans leurs sandales se salissaient quotidiennement par la poussière et avaient besoin d'être quotidiennement lavés, ainsi en est-il de nous, de nos pensées, de notre cœur. Ainsi Jésus indique par le biais de cette image du lavage des pieds notre besoin régulier, quotidien, de confesser notre péché. Dieu désire que nous mettions notre vie en règle au fur et à mesure, à chaque fois que cela est nécessaire. Et en fait, cela est si vite nécessaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au début du chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. » Et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, etc. Oui, le péché nous enlace, nous enveloppe, dit une autre traduction, si facilement. Et cela, il le fait de l'intérieur et de l'extérieur. En fait, c'est ainsi parce que nous sommes pécheurs. Parce que le péché est en nous, c'est notre héritage en Adam. Nous sommes enclins au mal. Le prophète Jérémie a une expression pour le dire. Il dit que notre cœur, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Le péché nous enveloppe de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il nous faut régulièrement venir à Christ, pour qu'il nous lave les pieds, c'est-à-dire pour qu'il nous purifie de nos péchés. Non pas la purification de la conversion, mais les derniers. De plus, même si le chrétien n'est pas du monde, il est néanmoins dans le monde. Et qu'il le veuille ou non, ce qui est mauvais dans le monde finit toujours par déteindre un petit peu sur lui, par le salir aussi. C'est comme quand vous êtes dans une pièce avec des fumeurs, vous avez beau ne pas fumer, quand vous repartirez, vos habits sentiront la cigarette. Et il en va ainsi de l'influence des choses mauvaises dans ce monde, qui finissent par laisser leurs traces en nous. Le péché nous enveloppe aussi si facilement de l'extérieur. Et il nous faut régulièrement venir à Christ pour qu'il nous lave les pieds, pour qu'il nous purifie de nos péchés. Finalement, que je sois chrétien ou pas, la repentance est une affaire qui nous concerne tous. Il est facile pour le chrétien d'arriver à croire, de finir par croire qu'elle ne concerne que le non-croyant. Et il est facile pour le non-croyant de ne pas se sentir concerné et de penser que c'est qu'un truc de bondieuserie pour les croyants. Mais en fait, chrétiens et non-chrétiens ont tous les deux, bien évidemment, besoin de se repentir. Le non-chrétien, premièrement, pour être sauvé. C'est ce lavage initial, ce bain initial dont parle Jésus au verset 10. Et le chrétien a besoin, lui, régulièrement, pour vivre la sanctification à laquelle le Seigneur l'appelle, de le faire, c'est le lavage des pieds dont parle Jésus. Quand il arrive au chrétien de pécher, parfois même de s'éloigner de Dieu, il ne s'agit pas ensuite pour lui de se reconvertir, mais simplement de se repentir. La nouvelle naissance, comme la naissance naturelle, n'a lieu qu'une fois. Ce que le Seigneur attend de ses disciples, c'est qu'ils viennent à lui pour régulièrement qu'il leur lave les pieds, puisqu'ils sont déjà sanctifiés. Ils sont déjà purs, dit Jésus. Ils sont déjà sauvés. L'apôtre Jean, dans sa première épître, écrit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons ou confessons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Chers amis, cette nécessité régulière m'amène à poser deux questions qui sont finalement les mêmes. À quand remonte le dernier lavage de mes pieds dans le sens métaphorique de notre texte? C'est-à-dire, à quand remonte la dernière fois où j'ai laissé Jésus me laver les pieds? Souvenons-nous de cette promesse de Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. C'est une grâce immense que de pouvoir marcher libre du fardeau de nos péchés. Est-ce que nous mesurons encore la grâce d'être libérés du fardeau de nos péchés, libre de nos chaînes? Avant de conclure, j'aimerais juste dire un mot sur l'exemple que Jésus laisse à ses disciples. Et en particulier, ce qu'il en dit dans les versets qui suivent notre texte, c'est le prolongement, il n'y en a qu'un, de notre passage. C'est aussi le quatrième point, et je lis les versets donc 12 à 17. Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. J'ai préparé des bassines. Jésus engage ici au verset 14 ses disciples à se laver mutuellement les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous devons littéralement et physiquement, tangiblement imiter Jésus en nous lavant physiquement les pieds ? Certains le pensent et le pratiquent encore de nos jours. Ceci dit, je pense personnellement que le texte et le contexte nous amènent à comprendre que ce que Jésus dit ici doit être compris de manière spirituelle. S'il était nécessaire que Jésus lave les pieds des disciples pour qu'ils soient en communion avec lui, ce lavage réciproque des pieds entre croyants ne serait-il pas nécessaire pour qu'ils soient en communion les uns avec les autres ? À mon sens, cette nécessité découle clairement du propos de Jésus. Mais ce que Jésus demande ici est à double sens. Il ne s'agit pas que l'un vienne et fasse la leçon à l'autre, mais que chacun, dans l'humilité, reconnaisse ses manques et s'en repente. Se laver les pieds mutuellement, réciproquement, c'est se pardonner les uns aux autres, c'est être conscient que nous sommes tous pécheurs. C'est comprendre qu'il ne peut pas y avoir de communion profonde là où le péché n'est pas confessé et pardonné. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous développions des relations mutuelles qui sont caractérisées par la bienveillance, bien évidemment, par l'humilité et aussi par le pardon, la repentance, le service que Jésus vient d'exemplifier. Y a-t-il un frère ou une sœur que j'ai blessé ? Pourquoi ne pas aller vers lui, vers elle aujourd'hui, pour régler la chose ? Y a-t-il un frère ou une sœur qui m'a blessé ? Pourquoi ne pas faire le premier pas ? Peut-être qu'il ou elle n'est même pas conscient de la blessure qu'il m'a faite. Attendre qu'il ou elle vienne à moi, c'est prendre le risque que ça ne se fasse jamais. Pourquoi ne pas faire le premier pas aujourd'hui ? Le Seigneur désire que nous suivions son exemple. Il le dit en nous pardonnant réciproquement, en nous lavant réciproquement les pieds. Si lui, le Maître, l'a fait, à combien plus forte raison nous, ses disciples, ses serviteurs, devons-nous le faire ? Et si nous le faisons, ce sera pour sa gloire et aussi pour notre bien. Que le Seigneur nous aide chacun à faire notre part. Amen. J'aimerais vous inviter maintenant à prendre quelques instants de silence, peut-être pour demander pardon au Seigneur, peut-être pour lui demander la force d'aller dans le sens de ce que nous avons dit, d'aller trouver un frère, une sœur, pour régler ce qui doit l'être. Prions, prenons le temps du silence.